toujours à l'écoute de Radio Canus sur le 102.2, 21 ans passé de 4 minutes à la pendule de la plus rebelle, La Lumière du Frigo, édition 582. Bonsoir. Cette édition avec une quasi-nouveauté, il s'agit de Future of the Left qui a sorti il y a quelques mois un disque qui s'appelle The Peace and Truth of Future of the Left. Voilà, je garderai 3-4 titres sur ce disque qui me plaisent, pour le reste bof bof, mais bon, celui-ci que je propose ce soir est drôlement bien, ça s'appelle Back When I Was Bryant.
Master. father's love. The faithful assets only know their master's love.
Allez, il est temps de partir. Ça a déjà démarré d'ailleurs, pour démarrer cette impro sonore. On entend en fond Filarium, un projet de Michel Chion, Lionel Marquetier, Jérôme Nottinger. Donc de la musique concrète enregistrée dans les studios des artistes. Ils ont travaillé de la façon suivante, ils sont immergés plusieurs jours, ont extrait plein de matières sonores et ensuite chacun est reparti avec tous ses sons sous le bras. Et on a tiré une pièce aujourd'hui, celle qu'on écoute, c'est celle de Lionel Marquetier, Nostalgie du Cyclope. Ça dure plus de 25 minutes, on s'arrêtera sûrement avant. Il y aura quoi ? Il y aura déjà Arte Radio qui va nous emmener à Clichy. Une histoire de plan, une histoire de retour sur les traces du passé. arteradio.com et radiocanu.org. La lumière du frigo, édition 582.
Alors tu vois là sur le plan ?
Je vois Vitry sur Seine, oui. On peut aller à l'immeuble. Ça fait exactement 54 ans et 2 mois que je ne suis pas venue ici. Ouh, ça fait drôle. Je pensais pas que le bâtiment était aussi long, en fait. Alors pourquoi ces souvenirs d'escalier ? Quand on y jouait, c'était une pelouse rase.
Ça te dit rien, non ?
Pelée. Non, je reconnais pas, là. J'ai pas où on est. Donc nous, on a dû y arriver en 55, 56, quelque chose comme ça. Mais moi, je n'y suis jamais retournée.
Allez, vas-y, sonne. Au 11. Demande si... voir s'il y a quelqu'un, déjà.
Je vais lui demander de visiter l'appartement, quand même.
Bien sûr.
Tu crois ?
Mais oui.
T'es déjà venu ?
Non. On moi j'aimerais savoir ce que représente cette photo.
En fait, c'est la photo de mariage de mon père et ma mère. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont très beaux tous les deux. Elle a 18 ans, il en a 20. Mon père la regarde avec admiration, je crois. Elle a, elle, ce beau sourire à fossette qui était le sien. Et pour moi, qui ai été tenue longtemps dans l'ignorance de ce qu'était vraiment ma mère, c'était l'incarnation du couple parfait. Et l'image même du bonheur conjugal. J'ai longtemps considéré cette photo comme une référence qui a sans doute déterminé mes propres échecs conjugaux, tant sans doute inconsciemment je voulais que mon couple ressemble au leur. Après, bien évidemment, je me suis aperçue que ce n'était qu'une apparence, qu'une façade, et que peu de temps avant de convoler en juste noces, mon père avait voulu rompre ses fiançailles parce qu'il s'était aperçu que ma mère buvait. Donc là, elle a 18 ans et elle est déjà alcoolique. Et ça ne fera qu'empirer jusqu'à ce que l'alcoolisme l'emporte alors qu'elle n'avait que 28 ans. Je veux dire, c'est pas un alcoolisme de salon. Elle n'allait pas dans les bars, elle n'allait pas dans les soirées. Elle buvait chez elle, toute seule, en cachette. Et du vin rouge. Moi, je me souviens que l'avoir surprise quand on habitait à Vitry, plusieurs fois en train de cacher des bouteilles de vin sous l'évier. C'est terrible parce que c'était une femme magnifique. Donc je ne sais de toute façon pas grand-chose. Donc cette photo est un leurre. Un beau leurre, mais un leurre. C'était quoi ? 601 ou 611 ? Vous êtes là depuis très très longtemps avec votre famille.
Oui.
J'ai habité dans cet immeuble.
Ah, vous êtes qui ? Quel est votre nom ?
Je suis Monique Mingeon. Mon père habitait ici.
Oui, je me souviens.
Jusqu'en 93.
Oui.
Et nous, on en est partis au décès de ma mère.
Oui. Vous voulez rentrer ? On va discuter à l'intérieur.
Ça vous embête pas ?
Ah, pas du tout.
Oh, c'est gentil.
Comme surprise, ça m'étonne.
Bonjour, madame.
Je suis Gisèle Bureau. Je suis à peu près de votre âge.
Absolument.
Voilà.
Ah, voilà.
Donc, effectivement. Ah oui, parce que nous, on est arrivés là en 57 et je crois que vos parents...
Voilà, ça je me rappelle. J'étais petite, je ne me rappelle pas quand
vous saviez deux frères, un qui s'appelle Raymond,
oui,
et l'autre qui s'appelle Richard. Un demi-frère qui s'appelle Michel.
Tout à fait. Tout
voilà.
À fait. Et j'avais aussi un autre frère qui s'appelait Jean-Pierre.
Oui, ah oui, Jean-Pierre aussi.
Voilà.
Ah oui, je me rappelle.
Voilà, voilà.
Jean-Pierre qui avait eu des gros problèmes de santé à la naissance.
Absolument. Absolument.
Ouais. Alors, je vais vous faire voir une photo de maman. Et ça va peut-être vous dire quelque chose.
Ah mais moi je me rappelle très bien de la famille. Quand on a vu Bureau là sur le planning des...
Oui.
J'ai dit mais c'est pas possible.
Des gens que vous avez connus, il ne reste plus que moi.
D'accord.
Il y avait monsieur et madame Mamiel avec Pierrot, Michel, Bernard, François et Patrice.
Oui.
Michel est décédé très récemment. Il y avait madame Huppie au quatrième avec trois garçons, Gérard, Claude et Dany.
D'accord.
Madame Pupille est décédée il y a 3 ans. Madame Le Petit est décédée il y a 4 ans, 5 ans déjà. C'est marrant. Dans mon horoscope, il m'avait dit que je reverrais quelqu'un que j'avais connu enfant. Et j'ai dit, mais c'est une blague, c'est pas possible, parce que de toutes mes amies d'enfance ou des gens qui ont vécu là, il y en a les trois quarts qui sont...
Et quel souvenir vous avez de la mère et de ma mère?
Alors, le souvenir que j'en ai, malheureusement, pas très bon, parce qu'elle avait un énorme défaut. N'est-ce pas, mamie, qui est sûre?
C'est-à-dire, comment on peut dire?
Oui, elle buvait. C'était pourtant une femme, parce que votre père, c'est quand même un homme qui faisait beaucoup de choses à la maison, mais malheureusement, elle avait une femme qui buvait. Qui buvait jusqu'à ce point, madame. Elle buvait tellement que Jean-Pierre, quand il est né, il a fallu qu'il soit désintoxiqué quand même. Hein. Ça nous est arrivé, c'est arrivé à ma mère, c'est arrivé à Madame Le Petit, c'était arrivé à la voisine de l'époque qui était Madame de Bouzy, qu'on l'avait ramassée ivre par terre, qu'il fallait qu'on la remonte, qu'on l'emmène se coucher quand même. Hein. Elle était pas mal comme femme, si ma mémoire est bonne. Elle s'arrangeait bien quand elle pouvait s'arranger, mais sinon, quand elle était ivre, effectivement... C'était dommage, quoi.
C'était récurrent, c'était souvent.
Ah, c'était tous les jours, pratiquement. Malheureusement, c'était tous les jours. Hein.
Et Roger, il en disait quoi?
Bah, Roger, il était un peu paumé. Et puis les trois quarts du temps, quand il rentrait du travail, il fallait qu'il fasse à manger, il fallait qu'il sorte un petit peu. Il fallait qu'il fasse à qui lui parlait plus.
Pourquoi?
Ah ben parce qu'il y en a qui ont trouvé des placés qui viennent là vivre avec sa deuxième épouse.
Et le fait que nous ne soyons jamais revenus, ni mon frère ni moi, ça n'a jamais troublé personne.
Bah si, ça a troublé un peu, mais bon.
Dans cette cité et dans cet immeuble en particulier, nous étions donc plusieurs enfants. Et je me souviens en particulier de deux d'entre eux, Chantal, jolie petite blonde, aux cheveux bouclés, et Alain, et dont nous nous retrouvions très très régulièrement pour jouer, pour bavarder, assis sur les marches. Et ma mère était hospitalisée déjà depuis un certain temps. Quand mon père, ma grand-mère ont décidé d'aller la voir. Ils m'ont demandé si je voulais les accompagner. J'ai refusé. Mon frère, lui, a accepté. Et ils sont donc partis tous les trois pour l'hôpital, dont je ne sais ni quel il était, ni où il se trouvait. Ce jour-là, ils sont revenus presque tout de suite. Et j'étais donc au milieu des autres, là, sur les escaliers. Et je me souviens qu'Alain a dit « C'est bizarre. Déjà, ta mère doit être morte. » J'étais pas allée la voir. Elle était morte. Et donc je m'en voulais de ne pas y être allée. De ne pas l'avoir vue au moins une fois, une dernière fois.
Mais septième tombe en partant de vous. Vous rentrez le plan ? ça c'est 23.
Oui, ça c'est sûr que c'est 23.
Et elle a dit quoi après?
Elle a dit, je sais pas, elle m'a griffonné un truc là, mais...
Donc c'est là-bas quoi. C'est 7e en partant de là-bas. C'est pas ici.
Comment ça, c'est pas ici?
Ben non, c'est pas là. Suis-moi, je te montre.
On nous a interdit d'aller à l'enterrement. Donc je n'ai pas revu ma mère, ni à l'hôpital, ni dans son cercueil. Et ce n'est que bien des années après, alors que j'étais moi-même adulte, que je me suis rendue sur sa tombe. Après avoir fait des pieds et des mains pour trouver le nom du cimetière à Pantin. Et j'y suis allée avec ma fille, qui avait alors 4 ans.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-là. Et ma fille, tu veux dire moi?
Bien sûr.
On est passé devant. C'est vrai qu'il y avait le truc devant.
Avait indiqué où était la tombe, il nous a fallu chercher un moment,
2016,
errer au travers des allées, des travées, avant de trouver cette tombe.
2016, oui, c'est 24.
Je sais que Mémé n'est jamais venue.
C'est vrai?
Ah ben non, elle n'est jamais revenue à Paris. Bien d'avoir pris de la lavande.
Maman, je suis désolée, pas bouger, je t'entends. Faire couche.
Après, tout est allé très vite. Donc, on nous a sortis de l'école. Il y a eu une sorte de marché conclu, je pense, entre mon père et ma grand-mère. Et cet homme de 30 ans ne s'est sans doute pas senti. Courage d'élever 3 enfants, et donc ma grand-mère a proposé de nous élever, nous emmener à 800 km de là, nous arracher à notre père, et mon père a accepté, a accédé à ce désir-là, et donc je ne me souviens pas du départ de Vitry. Ce que je sais, c'est qu'il s'est fait de nuit, puisque nous prenions le train de nuit Paris-Toulouse et Saint-Gaudens ensuite. La seule chose dont je me souviens, c'est de l'arrivée à Landorte. Donc, c'était très tôt le matin. Donc c'était forcément un temps d'hiver, puisqu'on était en février. Et le taxi avait dû nous laisser en bas de la côte. On a remonté la côte à pied. Alors évidemment, ça me semblait... à la fois gigantesque et totalement dénudée. Donc ma grand-mère nous a accueillis. Pas d'effusion, hein, pas de câlin, rien. Toi, tu dormiras là, dans l'entrée, dans un petit lit, a-t-elle dit à mon frère. Moi, je dormais dans la même chambre qu'elle. Une table de nuit séparait son lit du mien. Et mon père est reparti aussitôt. Dans la matinée même, argant d'un travail à reprendre, etc. Et il nous a planté là. Voilà. Et là, ça a été le début de la prise de conscience, je crois, de l'abandon. L'abandon de la mère et l'abandon du père. Heureusement, après... l'insouciance de l'enfance a fait que ça s'est bien passé. Mais j'ai beaucoup pleuré.
Viens,
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canut sur 102.2, 21h passées de 30 minutes. On poursuit avec avec des archives bientôt, tout de suite. Mais non, juste avant, je voulais dire, voilà, toujours pour accompagner Philarium. On a entendu des voix, cinq hommes qui chantent, ça s'appelle Five Men Singing, avec Jack Blanc, Koichi Makigami, Paul Dutton, Phil Minton et David Moss. Un disque vraiment intéressant, tout comme ce long docu que j'ai passé quasiment en entier. Retour sur l'enfance, super docu, assez touchant. Et il y a toujours un peu Philarium là, avec ses sons stridents. Par contre, Five Men Singing, c'est fini. Et non, qu'est-ce que j'entends au loin? J'ai l'impression qu'il y a comme des archives. Hein.
Et maintenant,
archives. Et maintenant,
la lumière du frigo,
c'est les archives. Et maintenant, c'est les archives.
Et c'est la lumière du frigo, c'est les archives.
Archives.
La lumière du frigo continue avec les archives. Le moment d'ouvrir.
Le moment d'ouvrir la porte du frigo.
La porte du frigo. De rafraîchir l'atmosphère.
Et d'écouter des extraits d'émissions.
Et d'écouter des extraits d'émissions.
Mars 2011.
Janvier 2014.
Septembre 2010.
Avril
2017.
Mars 2011.
Janvier 2014.
Juin 2017.
Bien, il s'agira d'archives de janvier 2013. On va entendre d'abord Basinski, on suivra des archives de sons d'Arte Radio. Et puis du vinyle, d'autres voix, d'autres choses inidentifiées. Et voilà, l'aliment du frigo poursuit édition 582.
Il aimait son prochain.
lutta toute sa vie contre l'injustice,
vous
l'avez bien sûr reconnu. C'est Victor.
Coopération. Pour les objectifs.
Aussi bien n'en sommes pas esclaves.
Efficacité. Expansion. Bénéfice. Je suis sûr qu'avec ces trois mots, nous parlons bien la même langue. Jouez le jeu.
retour au direct. Retour au direct.
C'est long. La lumière du frigo.
Retour au direct. Retour au direct.
C'est la fin des archives.
C'est la fin des archives. C'est la fin des archives. C'est la fin des archives.
La lumière du frigo, édition
582, la lumière du frigo poursuit. C'était donc les archives. On avait entendu plein de choses dont j'ai déjà parlé, donc je vais pas me répéter. Et puis on va enchaîner tout de suite avec KTL, donc Stefano Malley et Peter Hyberg. Voilà, sur le label Mego, label de Peter Hyberg d'ailleurs, plus connu sous le nom de Pita. La lumière du frigo, édition 582.
Comme sont les yeux de l'Égyptien, les
allées bordées de conques, de buissons.
mer, comme sont
les terrasses disjointes sont envahies d'un peuplement tardif, de petits lys,
et comme sont les yeux de l'égyptienne,
et l'orage noue ses robes noires,
mer, comme
le ciel
les
chasse
de
sur ses ancres,
les hautes demeures sur les caps,
comme sont les yeux de l'égyptienne.
On rentre, mer, comme sont les yeux de l'égyptienne. Mer, comme sont les yeux de l'égyptienne.
Mer,
comme sont les yeux de l'égyptienne.
Hiver, la mer en chair, la nuit remanie les estuaires, et les voiliers aux voiles de ce mer, aux voûtes des sanctuaires. Les cavaliers en est sont apparus sur les chevaux couleur de poils de loup. Les tombereaux chargés d'herbes amères s'élèvent. Et les vaisseaux à sec sont vite et le petit loutre de Riba. Les étrangers venus de mer seront soumis au sens. Amis, j'ai vu vos yeux barrés de mer,
comme sont les yeux de l'égyptienne.
J'ai vu vos yeux
et les barres de mer sont tirées sous le perche.
Par les années, j'ai vu ma vie de main, barré de mer, de bussin. Et les terrains d'une des sourires sont envahis de l'air de mer. J'ai vu les orages dans ses mains.
Thank you.
Brise-glace, 1994, When in Vanitas avec Jim O'Rourke, Darren Gray, Tim Jones et Dylan Posa. Vraiment superbe disque qui a pas pris une ride, même s'il a plus de 20 ans, avec plein d'expérimentations, plein de choses différentes et variées. Et on va rester quand même dans quelque chose de rock, mais beaucoup plus rock, avec Future of the Left. On écoute un autre extrait, un morceau assez court qui s'appelle Grass Parade. C'est binaire, mais assez jouissif. Allez, 21h, passé de 56 minutes à la pendule de Radio Canu. La lumière du frigo touche à sa fin. Tout de suite, des annonces. D'abord donc Future of the Left, ensuite Filarium, projet de Lionel Marchetti, Michel Chion et Joram Nottinger. Puis il y avait un reportage d'Arte Radio, 4 ans et 2 mois. Ensuite on a écouté des improvisations d'Oren Embarki, Stéphane O'Malley et Randall Dunn. Et puis Brise-glace dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà, on a eu tout ça, c'est un petit peu dans le désordre. On a eu de la poésie avec Paul Verlaine, et puis Five Men Singing, et puis des archives du frigo de janvier 2013. Voilà pour l'essentiel. Le reste, vous pourrez le réécouter sur le blog de l'émission. Donc vous allez sur le site de Radio Canu, radiocanu.org, et vous suivez les blogs et vous trouvez celui du frigo. Et voilà, 21h58, un petit peu d'avance, mais Bully Mix est là et s'installe et a sorti ses vinyles. Et je vous laisse avec lui. C'est parti pour 2 heures. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!